On va pouvoir reprendre. Juste avant, on a retrouvé quelques objets. Donc, Swazik montre une gourde. Il y a un bonnet aussi. Donc, si vous avez perdu des objets, n'hésitez pas à venir, à vous manifester à la fin. Donc, c'est l'heure maintenant de refermer cette journée. Donc, pour ça, nous sommes très, très heureuses d'accueillir Laëlia Véron. Laëlia Véron est linguiste, enseignante-chercheuse et maîtresse de conférences à l'Université d'Orléans. Elle est également autrice et chroniqueuse. Elle est aussi enseignante en détention et également autrice d'un podcast qui s'intitule « Parler comme jamais », dont plusieurs épisodes sont consacrés à la prison. Donc il y a l'épisode « Prison, les mots font le mur » et « Étudier en prison » qui sont parus en 2021 et dont je vous recommande chaudement l'écoute. Voilà, donc on va accueillir Laëlia Véron maintenant.
Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est bon ? Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais sincèrement vous remercier d'abord pour l'invitation et puis vous remercier aussi pour ce qu'on a entendu ce matin et cet après-midi. Des fois, quand on essaye de travailler dans ce secteur-là, le secteur culturel, d'autant plus en détention, on peut se sentir un peu seul dans nos efforts. Et justement, on voit, grâce à ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, que ce n'est pas le cas. Et c'est important, c'est même crucial, donc je vous remercie pour ça. Avant de commencer proprement dit, j'aimerais qu'on entende justement un extrait du podcast évoqué avec une personne détenue qui va parler de son rapport à la lecture.
Souvent, on lit dans les livres que voilà, en prison, on nous prive de tout, on nous vole tout, sauf notre imaginaire. C'est pas complètement vrai. Petit à petit, l'imaginaire est réduit. Je veux dire qu'il est annihilé, mais par moments, on n'en est pas loin. Et ce qui est dans les livres, en fait, on ne peut pas l'effacer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas effaçable. Donc quand vous prenez un bouquin, quel qu'il soit, si l'histoire vous plaît, vous plongez dedans. Là, pour le coup, le rêve est possible.
Et donc, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'entretenir l'imaginaire ?
Pour moi, ça me permet juste de continuer de vivre, pour de vrai. Pas de rêver, de vivre.
Un podcast.
Podcast.
Binge Audio.
Donc ça, c'était un extrait du podcast évoqué. Donc il y en a deux. Hein, Prison, les mots font le mur, qui est plutôt sur les échanges linguistiques en général en détention, et un qui est vraiment enseigné en prison. On a entendu cet extrait. La voix est déformée, comme vous avez pu le reconnaître, parce qu'il s'agissait d'un détenu prévenu. Donc c'était aussi une des conditions de l'administration pénitentiaire pour l'enregistrer, puisqu'on a eu la chance de pouvoir enregistrer le podcast en détention. Je me disais, puisqu'on parle de lecture en prison, que ça pouvait être intéressant d'avoir justement la voix d'un détenu à ce sujet. Et on a aussi des images qui sont tirées d'un reportage du New York Times sur le concours des détenus à la prison d'Orléans-Saran, là où j'interviens. Donc le photographe a pu, toujours en cachant le visage des personnes détenues, les prendre en photo, en train de lire, soit seuls, en cellule, comme on peut le voir ici. Ça nous rappelle l'espace aussi de la cellule, l'espace pour les livres. Soit on a quelques photos de personnes détenues qui sont dans une bibliothèque aussi, ou encore là ici en cellule, qui échangent ensemble. La seule personne dont on voit le visage, c'est un auteur qui est venu présenter un de ses livres. On va voir un peu les photos en fond d'écran pendant l'intervention. Alors, pour vous présenter mon intervention à proprement parler, moi je suis enseignante-chercheuse universitaire en stylistique et langue française. Ici, je ne vais pas vous parler de l'aspect linguistique de la détention, même s'il est très intéressant, mais donc de la lecture plutôt en tant qu'enseignante en prison, puisque je suis enseignante en détention depuis plus de 10 ans maintenant, de manière ponctuelle. C'est à côté de mon travail d'enseignante-chercheuse, mais régulière. D'abord dans l'association Le Génépi, quand j'étais étudiante et que l'association existait, puis en tant que vacataire de l'éducation nationale, donc dans des endroits différents, à la maison d'arrêt de Fresnes, à l'hôpital aussi de Fresnes, à la maison centrale de Clairvaux, de Rennes, de Saint-Maur, et actuellement, depuis longtemps, au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Donc moi, je pense que la plupart des gens sont familiers de ces différents types d'établissements. Voilà, j'ai fait un peu des établissements différents. Et pour vous dire encore une fois, ça c'est un de mes anciens étudiants, pour vous dire un peu ce que j'ai fait et les différentes approches que j'ai pu avoir de la lecture, ça a été... moi, je m'adapte à ce qu'on me demande en détention. Et généralement, en tant que vacataire, c'est pour soit faire des ateliers de lecture, d'écriture, de culture générale. J'ai un peu suivi le Goncourt des détenus, assisté à la première remise de prix du Goncourt des détenus et des préparations donc au DNB, l'équivalent du brevet, au DAU, l'équivalent du bac. Et aussi, j'essaye de suivre les personnes détenues, en tout cas Orléans-Saran, qui essayent de suivre des études en milieu pénitentiaire, des études supérieures, sachant que c'est très compliqué, notamment à cause de l'accès à Internet. Et souvent, voilà, des moments, j'ai aussi fait du suivi par courrier quand il y avait des personnes, par exemple, pendant les vacances, qui avaient des demandes un peu précises. Par exemple, à un moment, il y a une détenue qui voulait faire de la morale kantienne. Donc bon, ça, c'est quand même assez particulier comme demande. Elle voulait du Kant, de la morale, de la philosophie morale. Donc c'est à moi qu'on a refilé ça. Et voilà, je fais aussi ce genre de choses. Donc auprès de quelle population ? Chez les femmes, dans des prisons juste de femmes comme à Rennes, chez les hommes, dans des quartiers, en groupe mixte aussi, quelquefois. J'ai fait uniquement auprès des majeurs, en atelier et en cours individuel, notamment pendant le Covid. Alors concrètement, puisque je crois que certaines personnes sont familières du milieu carcéral, mais d'autres non, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que des fois, on a un peu des projections sur ce que ça veut dire concrètement intervenir en détention. Ça veut dire être dans une petite salle, avec des barreaux, voilà, on verra que ça d'ailleurs, avec pas beaucoup de fenêtres et quand il y en a, avec une vue et une lumière assez limitée. Concrètement, il n'y a pas un surveillant dans la salle avec nous, les détenus ne sont pas menottés, je précise parce que c'est des questions qui me sont posées, mais suivant les établissements, on nous demande d'avoir une alarme sur nous, et il y en a dans la salle. Et c'est des groupes, quand c'est par groupe, autour d'une dizaine, petite quinzaine de détenus, pas moins et pas plus pour des raisons de sécurité. Et pour préciser aussi quelle population carcérale, moi je connais, là c'est la bibliothèque d'Orléans-Saran, chez les femmes. Quelle population je connais ? Alors déjà, moi j'ai des gens qui sont scolarisés, mon travail se fait via le pôle scolaire. Selon l'enquête de l'administration pénitentiaire de 2017, bon, je n'ai pas la toute dernière, mais je ne pense pas que le chiffre a beaucoup évolué, c'est seulement 1/5 de la population pénale. Je suis plutôt des moyennes et des longues peines, parce que c'est les études supérieures, les études dites un peu longues, sachant que le DNB, le DAU comptent dans les études longues. Hein. Donc, en maison d'arrêt, c'est compliqué. J'ai souvent des personnes que je suis pendant plusieurs années. Et avec les études supérieures, j'ai les personnes les plus diplômées de la prison, sachant qu'un quart de la population carcérale est illettrée, plus de la moitié n'a aucun diplôme. Seuls 9% ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat. C'est les chiffres de l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Donc j'ai très peu eu des personnes, un peu le gros de ce qu'on a au milieu scolaire, analphabètes ou illettrées avec des cours de FLE. J'ai les plus diplômés, j'ai très fréquemment les oxybibliothèques dont on a parlé. Je vous dis tout ça parce que je ne prétends pas que ce soit représentatif de toute la population carcérale. J'ai des profils souvent assez étonnants de plusieurs personnes, par exemple, qui font des études. Ça m'arrive d'en avoir qu'on fait des études supérieures à l'extérieur, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont passé leur DAU en prison, qui ne lisaient pas du tout à l'extérieur, qui deviennent de gros lecteurs en prison, qui accrochent à la lecture en détention. Et souvent, ce qui est un peu compliqué, c'est de savoir pourquoi certains et pas d'autres, parce qu'il y en a certains au parcours très, très impressionnant, mais d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est des parcours qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la population carcérale, mais qui sont intéressants pour nous, pour réfléchir à cette question de la lecture et de la culture en prison. Et pour situer un peu cette intervention, encore une fois, moi, quand je parle de lecture, de culture en prison, généralement, je suis souvent un peu mal à l'aise. J'essaye de me situer entre deux positions un peu stéréotypées, deux réactions stéréotypées quand je dis que je travaille en détention. Une des réactions, c'est de me dire, bon, c'est inutile, la prison, ça doit être que de la répression. De toute façon, c'est que des violeurs, des assassins, des mangeurs d'enfants. Donc voilà, 2 balles dans la tête et c'est terminé. Bon, je ne pense pas que ce soit votre cliché à vous, puisque vous êtes ici, donc je passe sur celui-là. Mais l'autre cliché qui est quelquefois un peu répandu, c'est la vision de la lecture et plus globalement de la culture comme un peu rédemption facile, comme moyen clé de la réinsertion, avec les fameuses citations de Victor Hugo, ouvrir une école, fermer une prison. Et ça me semble, si ce n'est faux, à des moments aussi assez simpliste, et ça va avec une vision de la culture, de la lecture, comme très irénique, très non-violente, toujours dans la douceur de l'échange, alors que, à mon avis, son intérêt, c'est aussi son caractère conflictuel, mais une conflictualité qui peut être citoyenne, si elle est encadrée, si elle est préparée, et qu'on peut appréhender comme faisant partie de la construction de l'individu dans son rapport aussi au groupe. On dit souvent, par exemple, comment dire qu'on veut former à l'esprit critique sans penser que si on veut former à l'esprit critique, ben, ça implique un peu de critique et potentiellement un petit peu de conflit. Et donc ce n'est pas toujours urbain, facile, mais c'est justement le côté intéressant. Donc moi, je vais vous parler à des moments d'expériences concrètes avec certaines qui se passent très bien, mais aussi certaines qui sont difficiles. Être prof en prison, qu'est-ce que ça implique ? Alors, pour moi, bien sûr, je me réadapte par rapport à la fac, mais je vais aussi essayer à des moments de prendre, si ce n'est les mêmes supports, les mêmes sujets que je fais à l'université, pour les faire aussi en détention. On a parlé de lecture. Je voudrais préciser que la lecture que j'essaye de développer en détention, elle est littéraire, elle est philosophique, on en a parlé, mais c'est aussi une lecture médiatique. Souvent, on a des ateliers, on discute de l'actualité, et je me sers de l'actualité pour faire des liens avec leurs cours. Bah, par exemple, j'en ai qui font des études de droit ou qui ont du droit dans leur parcours. Il y a les décisions actuelles de la CPI. J'essaye d'apporter un article qui fait le bilan sur l'histoire de la CPI, la motion de censure, etc. Ce genre de choses. La lecture et l'échange autour de la lecture, j'insiste, c'est intéressant que ce soit aussi cette lecture de l'actualité. Mais j'assume de faire des œuvres à des moments jugées assez dures, assez anciennes, assez classiques, assez éloignées, parce que ce sont aussi des expériences, même si je m'adapte au diplôme, intellectuelles intéressantes. Regardez, par exemple, à un moment, je donne un texte de philo qui est objectivement dur. La première expérience, c'est on n'y comprend rien, qu'on soit en détention ou ailleurs, d'ailleurs. Et justement, c'est aussi une expérience intellectuelle très intéressante. Je leur dis, bon, vous lisez une première fois. Ils me disent qu'ils ne comprennent rien. Je dis, c'est normal, à l'extérieur, c'est pareil. C'est important aussi de dire ça. Faites-moi confiance, on va le décortiquer ensemble. Et à la seconde lecture, vous allez comprendre un peu quelque chose. Vous voyez, au-delà du texte même, du contenu même, cette expérience-là, de l'apprentissage, de dépasser ce blocage-là, il me semble très intéressant. Donc, j'assume de faire des supports dits difficiles et de l'analyse aussi assez poussée parce que ben, moi je me présente, je leur dis que je suis prof de fac et j'agis aussi en tant que prof de fac. Et à des moments d'ailleurs, je me retrouve bien obligée pour vous raconter une petite anecdote. Je n'avais pas pu récupérer mes photocopies au pôle scolaire, mais en prison on ne plaisante pas avec les horaires. Donc j'arrive dans ma salle de cours et je n'ai pas de support et il faut que je tienne pendant une bonne heure. Je regarde autour de moi en me demandant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette salle. Il y avait juste un discours de Macron sur la laïcité qui était placardé. Je me suis dit non, je vais prendre autre chose. Et je me suis dit bon, quel poème je connais par cœur. J'avais l'école chic d'Apollinaire, je l'ai mis au tableau et on a fait de l'analyse stylistique, poétique, grammaticale, pure et dure pendant une heure sur ce poème. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Comme des fois, on se casse la tête à inventer des supports. Et c'est ces supports contraints qui fonctionnent. Et aussi, moi, alors il y a des débats autour de ça. Il y a des personnes qui disent qu'il vaut mieux éviter certains sujets, certains thèmes. Moi, si je commence à expurger en littérature les thèmes problématiques, je vais pas pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, j'essaye de, au contraire, de prendre à des moments des sujets potentiellement difficiles. Ce que je peux contacter dans les réactions au cours et les réactions à la lecture, c'est un rapport qu'on pourrait dire franc, en tout cas très incarné, moins scolaire, et qui est intéressant pédagogiquement, même s'il peut créer des situations compliquées. Beaucoup moins de rapports détachés, abstraits, et des réactions très fortes par rapport à ce qui est proposé. Moi, j'ai donné « Demain des lobes » de Victor Hugo, et j'ai des gens qui sont mis à pleurer directement en l'entendant. J'avais fait un cours de Pascal sur le divertissement, vous savez, les occupations, ben, ça peut très bien en plus s'appliquer au monde contemporain, comme jouer aux cartes, faire du sport, qui seraient des divertissements pour échapper à la question de notre finitude humaine. J'ai des détenus qui réagissaient en disant « Mais c'est pas vrai, moi si je fais du sport, c'est pour être meilleur. » Mais vraiment des réactions très fortes et qui sont très intéressantes quand on veut faire un débat. Pareil pour de la morale kantienne, c'est quand même assez rare quelqu'un qui demande ça parce que la personne va vraiment prendre le texte au sérieux. Mais j'ai aussi des réactions fortes d'incompréhension, c'est des réactions fortes dans les deux sens, par exemple, mais c'est intéressant aussi pour se confronter à ses propres attendues quand on croit que quelque chose est partagé par tout le monde et que c'est pas le cas. Par exemple, de donner de la poésie, on a parlé de poésie. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit « Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça ?» au lieu de mettre les mots dans le bon ordre. Et là, vous avez l'air bête en disant « parce que c'est joli ». Enfin, vous voyez, c'est compliqué d'expliciter un sens esthétique quand il n'est pas partagé. Et ça montre aussi à quel point on présuppose que c'est joli, que c'est beau, que ça se comprend comme ça. Et non, donc on est obligé, nous, de re-réfléchir à pourquoi les textes nous intéressent. Alors comment, moi j'entendais, c'est des personnes qui l'ont dit cet après-midi, je suis d'accord, déjà en choisissant des textes qui les intéressent, en les lisant, en les incarnant, c'est une manière de faire comprendre, quelqu'un le disait en atelier cet après-midi, de faire parler le texte lui-même, essayer d'accrocher par l'image, le texte écrit fait souvent peur, donc moi quand j'apporte un livre, j'apporte l'illustration, toujours la couverture, et on essaye de la décoder, de réfléchir à ce qu'elle veut dire, parce que même pour les personnes qui auraient un peu peur d'aller dans le texte écrit, ça, c'est une première piste. Et je suis très contente qu'il y ait là, pour le coup, on devient moins snob culturellement. Moi, je remercie Disney, par exemple, ce genre de choses ou les dessins animés, parce que ça me fait des accroches. Si je veux parler de Notre-Dame de Paris, d'avoir le bossu de Notre-Dame ou ce genre de choses, c'est très difficile quand il n'y a pas du tout de socle commun. Par exemple, j'ai le cas de personnes qui n'avaient pas du tout eu des contes, vous savez, qu'on lit aux enfants. Jamais entendu parler de ça, et il faut trouver quand même une accroche commune. Et quand ça marche, c'est très fort, souvent, qu'en plus, quand c'est des textes qu'on juge difficiles, voilà, moi j'ai eu des détenus qui ont vraiment joué le jeu en lisant, en incarnant du Molière, et quand on entend du Molière, et quand on entend des rires provoqués par du Molière en détention, dans les années 2020, et ben, ça, c'est aussi un bel hommage rendu au texte. Et des fois, il y a des expériences assez incroyables dans cette manière que peuvent avoir des personnes détenues de prendre la littérature au sérieux. C'est des histoires qu'on a peine à raconter parce qu'on a l'impression qu'elles font presque un peu cliché, gnangnang, mais j'ai une détenue qui a été à l'isolement pendant très longtemps pour des raisons de djihadisme et qui avait en isolement les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Et bien, visiblement, c'était sa lecture. Rousseau se décrit, pas pour les mêmes raisons, mais comme un paria dans la société de l'époque, comme quelqu'un de rejeté parmi les hommes qui ne peut plus parler qu'à lui-même. Et bien, elle m'a montré son livre, elle connaissait des passages par cœur, elle s'est visiblement retrouvée là-dedans. Et ce côté un peu entier, vous voyez, pas très mondain, pas très scolaire, de la projection, de lecture, de l'échange autour de la lecture, elle se retrouve dans l'acte de lecture, mais aussi dans la réaction. Pour vous raconter une autre petite anecdote, quand il y a eu le premier Goncourt des détenus, c'est sa préférée de Sarah Julien Fardel qui l'a emporté. Donc il y a la remise du prix, il y a Éric Dupond-Moretti, il y a la ministre de la Culture, il y a plein de gens qui sont là. Et Éric Dupond-Moretti fait un discours, on se regarde un peu à la fin, parce que puisqu'il parle d'un message d'espoir alors que ça se termine quand même sur un suicide, sa préférée, on se dit, bon, il a peut-être pas lu. Bon, ok, ça arrive à tout le monde de parler d'un livre dont on n'a pas lu. Mais nous, on dit rien, parce que c'est le ministre quand même. Et puis là, il y a un des membres du jury détenu qui fait, mais pas du tout, qui l'interrompt en disant, mais pas du tout, c'est pas un message d'espoir, elle se suicide, qui commence par lui citer à la fin. Il faut quand même arriver à déstabiliser Éric Dupond-Moretti, qui fait un peu comme ça, mais le détenu insiste, et là, me montre du doigt en disant, c'est ma prof, elle va vous expliquer. Donc, j'ai pu te faire une petite explication de texte à Éric Dupond-Moretti en disant, bah oui, effectivement, vu que le futur est sous la forme négative, blablabla. Voilà. Mais au moins, vous voyez, ça dépoussière à des moments certaines interventions autour de la lecture qui paraissent édulcorées. Et c'est assez fou ce que les personnes détenues peuvent dire de l'expérience de la lecture. On l'a entendu avec le premier extrait. Ça va beaucoup plus loin que ce que nous, on oserait dire quelquefois, la métaphore de l'évasion. C'est vrai qu'elle revient tout le temps, même quand on ne la propose pas. C'est une métaphore qui revient dans la bouche des détenus eux-mêmes, un moment d'oubli, un moment d'évasion. Et généralement, c'est assez impressionnant comme on peut le voir, même dans les rapports au diplôme, dans les rapports à l'école, avec des gens qui ont un rapport compliqué à l'école, la force du diplôme, bah, des gens qui pleurent. Moi, j'ai eu des détenus qui sont allés crier aux fenêtres qu'elles avaient leur diplôme. C'est quand même des moments extrêmement forts. Si j'essaye de faire le bilan un peu sur ce que ça permet, après je parlerai des limites, mais cette question, alors pas seulement de s'évader, mais effectivement de se projeter, de comprendre ou d'avoir le sentiment d'être compris. Des fois on parle de la littérature de manière un peu abstraite, comme une conversation entre deux personnes que tout sépare. De fait, cette histoire de Rousseau et de cette dame à l'isolement, je ne pense pas que Rousseau aurait prévu qu'il se rendait qu'une personne là pour djihadisme se sentirait comprise par lui dans les rêveries du promeneur solitaire. Mais de fait, ça a fait cet effet-là. Et Il y a le fait de se comprendre et aussi de parler, parce que souvent quand on fait des animations autour de la lecture, lire, c'est, si on essaie de parler de ce dont on a lu, c'est justement échanger, c'est parler. J'ai eu le cas par exemple d'un détenu qui, quand il est entré en prison, ne parlait plus du tout et qui, pendant les discussions autour du concours des détenus, voulait juste passer ses informations, ses avis par écrit sur des petits mots. Et au fur et à mesure, il s'est mis à parler, à prendre la parole. On a des fois ça en détention, hein, des personnes qui arrivent qu'on soit ce qu'on appelle le choc carcéral qui va se manifester par du mutisme, soit au contraire un usage de la parole très désordonné. Et le rapport un peu au silence de la lecture, à l'écoute même quand quelqu'un d'autre lit, puis à l'analyse, à la prise de parole, ça peut permettre de réguler ça. En détention, on a aussi la lecture qui est justement pas juste une activité solitaire mais collective, avec un cadre qui rend la lecture collective. Des personnes l'ont dit, hein, sur la bibliothèque comme lieu de vie, effectivement. Quand on va dans une bibliothèque, on a des gens qui jouent aux échecs, par exemple, qui échangent. La bibliothèque, c'est aussi un lieu où on peut se poser, échanger un peu, éventuellement, effectivement, emprunter des livres. Mais c'est plus que ça. C'est aussi un apprentissage de la vie sociale. Ben, moi, j'ai des groupes mixtes, comme je vous disais. C'est aussi donc un espace de discussion entre personnes. Il ne faut pas penser que les détenus sont tous les mêmes, hein, qui sont là pour des raisons différentes, qui peuvent venir de milieux différents, de géographies différentes, qui peuvent être de sexes différents. C'est des échanges avec le pôle scolaire. J'ai des petites anecdotes qui sont toujours un peu... Ben voilà, quand je demandais à des gens de pôle scolaire de m'imprimer des supports, par exemple sur Boule de Suif, et ben les collègues le lisaient, donc en parlaient aussi aux détenus. Des échanges avec les surveillants qui nous demandent ce qu'on fait, qui des fois participent. C'est des petites anecdotes qui font un peu bisounours, mais qui sont réelles. À un moment, j'aime bien, moi, donner des débuts de nouvelles de mots passants sans la fin, et puis on les fait travailler sur essayer de deviner la fin, essayer d'écrire la fin, puis ah, le moment, on arrive et on lit la fin. Là, j'étais à la fin de La Parure, où il y a un gros retournement, si vous connaissez, et on arrive à la toute fin, et là, le surveillant frappe en disant fin du cours. Et tout le monde lui a fait « Surveillant, deux minutes !» Et donc, il est venu avec nous pendant, il nous a laissé ces deux dernières minutes pour entendre, de fait, avec nous, la fin de la nouvelle. Donc ça, c'est bien un moment aussi, comme on le disait, de vie collective qui peut impliquer plusieurs acteurs dans le milieu carcéral et pas uniquement les détenus. Et on a beaucoup eu des ateliers très intéressants sur les liens avec la parentalité. Moi, c'est quelque chose que je vois dans les cours, dans la lecture. Ça permet aussi d'avoir des choses à raconter à sa famille. Moi, j'aime bien donner des supports qui peuvent être lus et analysés à des niveaux très différents, typiquement les fables de La Fontaine. J'ai eu plusieurs fois l'expérience de l'analyser de manière poussée en détention. Mais ça permettait aussi aux détenus de parler avec leurs enfants. Par exemple, de Fables de La Fontaine, leurs enfants pouvaient en étudier une à l'école. Nous, on en avait une en prison, pouvaient interagir dessus. Ils me disaient celles qui avaient étudié leurs enfants à l'école. Donc moi, je rapportais ce support-là. On a aussi beaucoup de détenus qui veulent suivre des cours pour se refamiliariser avec le milieu scolaire, des fois au cours au même niveau que leurs enfants scolarisés à l'extérieur, mais aussi pour se retrouver leur rôle de parent qui peut aider aux devoirs ou qui du moins peut discuter des devoirs. Et ça apporte aussi tout ça. C'est aussi important, on en a parlé, pour l'estime de soi, surtout quand on a eu un rapport à l'école compliqué. Moi, je suis très impressionnée de voir à quel point l'école, ça marque. Même quand vous avez des gens, on se dit, bon, c'est des gens qui sont là pour des histoires de gangs, de drogue, de ceci, cela, qui sont assez âgés, qui ont l'air d'être complètement sortis de cette question de l'école. Ben, ça compte, j'ai eu 14 à des moments, c'est très important. Même quand ils ont des choses qui peuvent nous paraître plus grave à gérer, de fait, le rapport à l'école, à la validation de l'école, à la culture dite légitime, au livre, qui est quand même la forme reconnue comme légitime de la culture, c'est visiblement important pour se positionner par rapport à soi-même, à sa famille, aux surveillants, aux CPIP, aux autres détenus. C'est ne plus juste être détenu, mais être lecteur. Ça permet aussi, dans les cadres, les activités qu'on organise, le débat, parce qu'apprendre à échanger, à ne pas être d'accord, à échanger des avis quelquefois contraires, à accepter que les avis ne soient pas les mêmes, à accepter que les avis des autres l'emportent. Par exemple, pendant le concours, il y a un vote, donc il faut accepter à des moments que les autres ne votent pas, que ce ne soit pas le livre pour lequel on a voté qui soit retenu. Tout ça, c'est aussi un apprentissage qu'on peut appeler citoyen avec un aspect potentiellement conflictuel. J'y reviendrai. Et le livre peut servir comme médium au sens vraiment propre pour parler d'autres choses, pour réfléchir à sa vie en général. Voilà, les livres, ça parle de violence, de sexualité, de politique, c'est des... thématiques qui sont liées au parcours de vie, mais des fois aussi potentiellement au parcours pénal. Et qui peut, au fait, entrer en résonance d'une toute autre manière sans forcément que ce soit coordonné avec le travail qui est fait par ailleurs en détention, avec les psychologues, avec les CEPIP, les conseillers d'insertion, de probation. Et souvent, en étude, hein, moi, quand j'ai des détenus qui veulent faire de la psychologie, ça peut être pour se comprendre. Beaucoup veulent faire du droit, c'est aussi pour comprendre le parcours et se donner les moyens d'y répondre. Et très concrètement, on voit bien comment la lecture, ça peut avoir cet effet très concret. Des choses toutes bêtes, moi j'aime bien faire de la mythologie, des mythes, et essayer de réfléchir à leur côté symbolique. Vous avez Narcisse et Écho, ben, c'est deux rapports aux autres très dysfonctionnels. Hein. Narcisse, c'est ne voir que soi, se regarder, se mirer, se noyer. Écho, c'est être que tourner vers l'autre. Vous avez le Minotaure, par exemple, le labyrinthe. Bon, ben, l'aspect symbolique, aller au fin fond du labyrinthe pour confronter potentiellement le monstre en soi, mais avoir besoin d'un fil d'Ariane pour ressortir. Vous voyez bien qu'on peut développer sur le côté symbolique. Moi, je ne vais pas dire, ben, alors pour toi, c'est ça, pour toi, c'est ça, pour toi, c'est ça. Mais je peux présenter l'aspect symbolique et je vois bien comment les personnes s'en saisissent. Donc, il y a vraiment énormément de richesse dans ces expériences. Mais alors, après vous avoir parlé de tous ces éléments positifs, vous vous dites bien que je vais vous parler des, si ce n'est d'éléments négatifs, de limites, parce que c'est important de s'y confronter. Alors, tout d'abord, les limites matérielles, bien évidemment, qu'on a évoquées. La différence entre le droit à la culture, à l'enseignement, qui a été évoqué, et la réalité, puisque l'accès à la culture, comme à la scolarité, est censé être un droit, mais peut être un privilège. Les extérieurs ne pensent souvent pas à ces limites matérielles. La prison, c'est un espace dangereux, où à la fois il ne se passe rien, quelquefois il peut se passer beaucoup de choses, et il peut se passer des choses graves très vite. Et ça bride nos interventions des deux côtés. Alors, quand vous êtes intervenant, les personnes qui sont allées en détention le savent, déjà, vous attendez tout le temps à toutes les grilles. Et il suffit qu'il y ait ce qu'on appelle un mouvement, un blocage, pour que votre cours saute ou qu'il soit complètement amputé. Vous ne savez jamais qui va être là, pour X raisons, parce que l'info n'est pas passée, parce qu'il y a une autre activité en même temps. Des fois, on a des personnes détenues qui arrivent très énervées parce qu'elles ont tambouriné pendant une heure avant de venir. Parce qu'elles ont vécu quelque chose de difficile par rapport à leur famille, par rapport au procès. On a des gens qui viennent ou qui partent de manière brusque. On a des gens qui peuvent avoir des rapports compliqués entre eux. Donc on doit être dans une adaptation constante et on ne sait jamais comment ça va se passer à l'avance. Comme ça a été dit aussi aux tables rondes, on a des surveillants qui peuvent être occupés, débordés. Ça peut être une charge de travail en plus. Et c'est très important justement de bien s'entendre avec eux, que le pôle scolaire soit bien adapté par le centre pénitentiaire, parce que sinon, s'il y a un rapport conflictuel avec eux, alors c'est clair qu'on ne pourra pas du tout faire notre travail. Pour ces limites, pour donner des exemples concrets, le manque de place. Moi, je suis adément interpellée par des détenus quand je circule, parce que je vois bien que j'ai des livres, que je suis prof, ou qui écrivent, qui demandent, voire qui supplient pour aller en cours. Il n'y a pas de place, donc c'est non. Voilà, ça c'est une réalité très concrète. Des difficultés administratives autour de toutes les règles qui peuvent beaucoup changer sur la mixité. D'abord, ça change des fois du jour au lendemain. Et par exemple, bah, j'ai une détenue. Alors, c'est pas censé avoir une femme seule et moi je ne compte pas. Donc, si j'ai juste une détenue, s'il n'y a pas une de ses camarades, bah, elle n'a pas le droit d'assister à la séance. Donc, elle peut venir et être envoyée. C'est ce genre de frustration. On dit souvent qu'il n'y a rien à faire en prison. Ben, c'est à la fois vrai et faux, parce qu'il y a des personnes qui travaillent, il y a la question des promenades, il y a la question des visites. Il faut des fois, quelquefois souvent choisir entre la promenade ou le moment de lecture ou le cours. Et donc, en réalité, c'est bien plus compliqué qu'on n'a rien à faire et on se saisit de ça. Et il y a le manque d'accès au support, aux livres, l'accès à la bibliothèque, aux livres. Pour vous donner un exemple concret, pour le DAU, l'équivalent du bac, là, il y a deux œuvres au programme, L'étranger de Camus, Don Juan de Molière. Eh bien, le pôle scolaire, je comprends pourquoi, hein, mais veut attendre janvier pour qu'on ait des personnes, on soit sûr qu'elles soient sérieuses dans leur inscription en cours pour acheter les livres. Mais en attendant, on n'a pas les livres. Et c'est quand même problématique quand c'est une lecture d'œuvre complète qui va être sanctionnée à l'examen final. Pareil, hein, pour les ateliers médiatiques, pour apporter des journaux, souvent, moi, je me retrouve à en acheter, ce qui en réalité pas une solution. Des limites matérielles auxquelles on ne pense pas. Les cellules, elles sont toutes petites. Moi, quand j'ai des étudiants en études sup qui ont plein de bouquins et plein de cours, au bout d'un moment, on leur dit d'en jeter, parce que sinon leurs cellules sont considérées comme pas rangées, sinon c'est pas vivable tout simplement. Ça a l'air bête, mais ça joue beaucoup. Et pour les études supérieures, alors là le gros problème c'est l'accès au numérique, tout passe pratiquement par internet, c'est l'enfer pour essayer de suivre des études supérieures en détention. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il n'y a pas accès au numérique en détention. C'est compliqué pour les cours de langue. J'ai des collègues qui sont très compréhensifs à l'extérieur, dans les facs, avec lesquels on a des partenariats et d'autres moins. Par exemple, en anglais, il me dit « il faut une vidéo de la personne qui se filme en train de parler anglais ». Je dis « je peux pas, il n'y a pas le droit au téléphone ». On me dit « mais si, on sait bien qu'il y en a en prison ». Je dis « peut-être, mais moi, je ne vais pas dire de faire ça ». Vous voyez, donc c'est ce genre d'explicitation qu'on doit tout le temps avoir. Et puis, il y a aussi des difficultés pédagogiques. Alors, je vais le dire rapidement, mais vous voyez, par exemple, je me rappelle une fois, il y avait Médé au programme, donc on discute d'infanticide, de meurtre, et le surveillant commence à passer une oreille à travers la porte. Je dis non, mais c'est au programme, c'est Médé, c'est Sénèque, c'est normal, c'est un classique. Vous voyez, par exemple, je vous disais qu'il y avait Don Juan de Molière et L'étranger de Camus. Ben, moi, ça m'a fait un peu des. Enfin, mais c'est intéressant aussi pédagogiquement, au lieu de dire bon, alors Camus, c'est la théorie de l'absurde qui justifie le meurtre et le suicide. Des fois, vous le récitez un peu comme ça, donc, quand c'est dans un cadre scolaire. Là, je me suis dit, ah oui, quand même. Enfin, ça devient compliqué de présenter l'histoire de quelqu'un qui est jugé parce qu'il a tué quelqu'un d'autre, qui ne fait pas preuve d'empathie dans une œuvre, sur l'absurde qui peut justifier le meurtre et le suicide. Vous réfléchissez un peu plus à comment vous allez le présenter. Et alors, je n'ai pas le temps de développer... Mais généralement, ça pose aussi la question de ce que disent les livres eux-mêmes, parce qu'on se dit a priori, la culture, c'est bien, les livres, c'est bien, je suis bien d'accord. Mais... on peut se retrouver dans des situations compliquées. Je pense par exemple à toute la mode de la littérature de faits divers qui joue à entrer dans le point de vue, vous voyez, de criminels, etc. Bon, quand il y a un écrivain qui joue à prendre le point de vue d'un violeur à la première personne et que c'est pas moi qui ai choisi le programme et que je me retrouve à l'enseigner en détention, c'est compliqué à gérer. Et là, on se rend compte aussi à des moments pour qui sont écrits les livres. Comment on fait quand un livre véhicule une position dite contestable? On pourrait dire on n'a pas à le juger moralement, il faut le juger esthétiquement, mais en réalité les gens, les détenus vont très souvent le prendre de manière morale et on peut comprendre pourquoi. Bref, je passe un petit peu, mais ça pose beaucoup, beaucoup de questions et de difficultés et ça nous oblige, mais c'est intéressant, à aller au-delà de la littérature c'est bien, le livre c'est bien, et de réfléchir concrètement comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire que c'est bien, qu'est-ce que ça apporte. Je voulais aussi évoquer assez rapidement le fait qu'on voit beaucoup la lecture comme l'espace de dialogue par rapport à la violence directe, de douceur rédemptrice. Quand on voit des fois des films sur la prison, sur les cultures en prison, on n'a que un peu ces beaux moments pépites dont je vous parlais, qui existent, qui sont bien réels. Mais je pense que c'est important de souligner que c'est aussi des moments de tension, de conflit, de violence, mais que ça se comprend. Quelquefois, il y a des auteurs qui viennent en prison qui sont prêts à partir, qui n'y s'y attendent pas, qui sont habitués à aller dans des régimes beaucoup plus policés. Je disais que ça aide à l'estime de soi. Mais si on parle d'estime, il y a aussi la honte. La honte à ne pas arriver à bien lire, à l'écrit, à l'oral. La honte dans un cadre collectif par rapport à l'enseignante, par rapport aux autres. En plus, dans un cadre, quand j'ai des cadres masculins notamment, ça peut aussi provoquer des tensions. En sociologie, on va parler de la culture comme un capital. Donc un capital, ça implique de la domination, des dominants et des dominés. Et bien sûr qu'il peut y avoir des jalousies, des tensions autour de ça, entre détenus, parfois entre détenus et surveillants. Quand les surveillants se demandent pourquoi les détenus ont accès à tout ça et pas eux, ce que je peux comprendre. Et quelquefois, ça fait vraiment des situations tendues. Quand quelqu'un souffre de ne pas maîtriser la parole, de ne pas avoir la référence, de ne pas connaître la langue, et il peut exprimer cette frustration de manière violente. Le sentiment d'infériorité, de honte peut se manifester de manière violente. Pour vous donner un exemple très concret, j'anime avec un collègue un atelier de rhétorique. On a un détenu qui est très stressé avec l'idée de prendre la parole en public, qui récite le corbeau et le renard dans sa tête pour se calmer. Bon, jusque-là, c'est mignon. Ça se passe bien. À un moment, un autre détenu a le malheur, décide de vouloir lui donner un conseil. Un autre détenu qui est beaucoup plus à l'aise à l'oral. Le premier le prend très mal, commence à lui hurler dessus et commence à le traiter de sale pointeur. Pointeur, c'est quelqu'un qui est là pour crime sexuel en prison. Et vous voyez très bien ce qui se passe ici. Il y a quelqu'un qui s'est senti infériorisé culturellement. Et donc, pour retrouver un peu sa place, pour pas se sentir infériorisé, vous voyez, il essaye de rejeter une accusation sur l'autre, de retrouver, sa place en rabaissant l'autre. Et c'est aussi ce genre de choses qu'on se retrouve à gérer quand on parle de lecture de culture en détention. Et on doit aussi gérer le fait que quelquefois, les personnes ne vont pas trouver dans la lecture ce qu'on aimerait qu'ils y trouvent pour être des bons détenus, entre guillemets, selon notre image, qui vont forcément changer, se remettre en question. Quelquefois, ça peut être aussi l'envie d'avoir ce que les autres n'ont pas, de se distinguer, d'être en position de supériorité. Quelquefois, on peut donner un livre en espérant qu'il y ait une remise en question et avoir l'impression que ce soit le contraire, hein, le déni. Mais ça nous pose aussi des questions sur notre propre rapport à la lecture. Très très rapidement, mais pour le premier Goncourt des détenus, ça a été sa préférée de Sarah Julien Fardel, qui parle de manière très complexe des violences intrafamiliales. Donc ça n'a pas posé problème. Mais le deuxième, c'était La petite menteuse, qui est un livre sur une fausse accusation de viol. Je me demande ce que ça aurait donné d'un point de vue médiatique si le premier Goncourt des détenus, ça avait été un livre qui parle d'une fausse accusation de viol. En même temps, ça aurait été intéressant parce qu'il a été très loué par. Je présuppose que ça aurait été mal perçu justement comme une façon d'être dans, peut-être dans le déni, pas de la remise en question. Alors que je me demande comment auraient réagi certaines personnes qui avaient bien aimé ce livre tant que ce n'était pas des détenus qui l'avaient plébiscité et si elles auraient toujours autant bien aimé si des détenus l'avaient plébiscité. Donc ça aurait été intéressant, mais. J'avoue que quand c'est arrivé en deuxième, moi je me suis dit pour le premier Goncourt des détenus, j'étais quand même plutôt contente qu'on évite la polémique. Mais voilà, on doit accepter qu'on ne doit pas plaquer une lecture, qu'ils ne vont pas forcément trouver dans la lecture ce qu'on voudrait qu'ils y trouvent et espérer qu'ils vont peut-être aussi trouver autre chose que ce qu'ils y cherchent ou ce qu'ils disent chercher. Parce que moi, j'ai très nettement une fois un détenu qui m'a dit « Bon, moi, je veux suivre des études sup. » Il ne me l'a pas dit comme ça, mais c'était quand même bien l'idée pour arriver à mieux manipuler les gens. Donc, bonjour. Voilà. Et là, on se demande à des moments, on espère qu'il va trouver autre chose que ce qu'il était venu chercher. En général, encore une fois, assez rapidement, ça peut aussi nous aider à nous interroger sur la vision de la lecture et de la culture comme réinsertion et avoir une vision quelquefois un petit peu idéaliste que j'ai vue encore une fois dans des films, certaines projections culturelles, des ateliers de rhétorique en mode « oui, avec les rhétoriques, avec la manipulation des mots, tu pourras avoir n'importe quel job, n'importe quelle femme, etc. » Ben non. Quelquefois une vision qui... a l'air d'exagérer ou en tout cas de présenter comme si la culture pouvait tout faire à être toute seule. Je comprends bien pourquoi on a besoin de défendre ça, hein, parce qu'on a besoin de budget et que on doit mettre en valeur ce qui marche. Mais ce qui me dérange un peu, c'est quelquefois de présenter la culture, en tout cas certaines réactions qui veulent être positives, hein, comme un facteur de réinsertion, alors qu'on sait que c'est plus compliqué que ça, qu'il faut que ce soit en lien avec bien d'autres actions, et quelquefois on se demande quelle part effectivement peut avoir vraiment la lecture, la culture par rapport à tout le reste, le logement, le travail, le lien, le maillage social, et est-ce que ce n'est pas très limité par rapport au reste, les facteurs de réinsertion. N'oublions pas aussi qu'il y a des gens pour lesquels la réinsertion s'est très éloignée, des très longues peines, de la perpétuité, qui, contrairement à ce qu'on croit souvent médiatiquement, peut être appliquée en France. Quand on intervient en centrale et que vous avez des gens qui ont perpétuité, on ne peut pas penser à la réinsertion, en tout cas de la même manière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que comment on fait quand on a à la fois ces moments de sens qui sont très forts, ces mouvements qui sont un peu quasi merveilleux, et des limites bien concrètes et bien réelles? Pour vous donner un exemple, désolé, pas très gai, mais qui est réel aussi. Voilà, moi, j'ai un étudiant détenu qui avait passé son DAU en détention, qui a repris des études de philo, qui les a réussies de manière assez incroyable. Il s'est suicidé en détention. Donc, la lecture ne l'a pas non plus sauvé, la philo ne l'a pas sauvé. Après, ça ne veut pas dire que ce qu'il a vécu avec ça n'est pas réel et que ces années-là n'ont pas eu lieu. Mais c'est aussi ça, la réalité de la détention. Donc, ce que je voudrais dire pour conclure, j'ai un peu accéléré, mais c'est pour qu'on ait le temps d'échanger, pour terminer sur cette question de la lecture et plus généralement de la culture comme facteur de réinsertion. Moi, quand on me dit ça, c'est super, ça aide à la réinsertion. J'ai envie de dire que c'est à la fois beaucoup moins et beaucoup plus. Je n'arrive pas à me prononcer sur la réinsertion, en tout cas à mon échelle individuelle, ou même parce que j'ai l'impression que ce n'est quand même qu'une petite goutte d'eau. Et je n'arrive pas à me prononcer comment ça pourrait être utile une fois que l'intervention est finie, plus tard, à l'extérieur, à long terme. Mais on peut quand même accepter et être d'accord sur le fait qu'il s'est passé quelque chose d'important sur le moment même, qui reste intense, parce que c'est des moments d'échange qui sont très forts. Je ne sais pas si c'est parce que on n'a pas de dérivatifs comme les portables dans ces moments-là. Les personnes, moi j'ai que des personnes volontaires, elles viennent pour échanger, je viens pour échanger. Donc les moments sont toujours très intenses et très forts. Et ils restent intenses, même s'ils sont peut-être éphémères et petits par rapport au reste. Et donc, c'est ce que je veux dire quand je dis que c'est peut-être beaucoup moins que la réinsertion, mais peut-être beaucoup plus. Je vais sortir à assumer les grands mots, mais c'est des moments alors, de réinsertion peut-être, mais d'humanité certainement. Parce que, voilà, essayer de faire vivre la lecture, la culture en détention, c'est peut-être essayer effectivement de faire vivre certains beaux moments ou certains moments au moins d'échange, y compris dans leur dimension conflictuelle, dans des lieux de silence, c'est ne pas renoncer, comme le disait le détenu qu'on a entendu en début d'intervention, à une certaine épaisseur de vie, à essayer, tant bien que mal, à vivre ensemble. Voilà, je vous remercie.